On va commencer le séminaire, donc qui aujourd'hui est un séminaire, on va pouvoir discuter aussi, mais un séminaire plus thématique, donc souvent nous avons traduit. Nous avons déjà eu une intervention de Martina Weingartner sur justement l'histoire là, de Mondragore dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, Corinne Lannoy va vous faire travailler un peu sur les femmes. Ça prolonge très bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, juste pour vous présenter très brièvement Corinne Lannoy, elle enseigne donc, je crois, à l'Institut protestant, ça s'appelle encore l'Ancien Testament.
Ça s'appelle
l'Ancien Testament, à la faculté théologie protestante au boulevard Arago. Corinne a fait sa thèse déjà sur les femmes, en fait. Sur les femmes, mais pas dans l'histoire de Jacob, mais sur les femmes dans le livre des juges. Il y a aussi pas mal de femmes qui font des choses parfois un peu subversives, donc si ça vous intéresse, voilà. Et puis, elle vient de publier aussi un petit cahier évangile sur l'histoire de Jacob, justement, donc, que vous pouvez aussi donc, acquérir. Et voilà, donc... se connaît depuis très longtemps. Elle a fait sa thèse avec moi, en fait. Quoi. Voilà, et puis je suis très content qu'elle a pu se libérer. Et puis, vous avez reçu, je crois, une feuille.
Deux, même.
Ou deux, donc tout le monde les a. Oui, ouais, très bien. Et puis, donc, je pense que ça vous sera utile maintenant un peu pour ce qu'elle va vous proposer, et puis après on posera des questions. Bah, est-ce qu'il y en a une feuille pour moi aussi? Non, il n'y en a plus. Non, bah, sauf ça, Hervé va m'en trouver, mais Hervé a disparu, c'est pas grave, il va revenir. Bon, alors écoute, commence et puis oui. On verra.
Bien, alors ben, bonjour à tous et à toutes, et merci d'être là, et puis merci à Thomas de m'avoir invité pour ce moment. Donc, je n'ai pas du tout pensé ce moment comme une conférence, mais plutôt comme l'occasion qu'on puisse échanger et travailler ensemble sur les textes. En partie d'ailleurs sur les textes qu'on vient de lire dans cette séance, et puis sur d'autres qu'on a lus avant ou qu'éventuellement on lira après. Donc, l'idée, c'était, si vous voulez, de reprendre l'histoire de Joseph à partir des femmes. Alors, pourquoi et comment faire ça? Alors, comment ne pas le faire, premièrement, peut-être. On ne va pas regarder les textes pour juger des comportements des unes et des autres, parce qu'on est dans une histoire qui appartient à une autre culture, à un autre temps, et donc on ne va pas utiliser, disons, ces figures féminines pour immédiatement les transposer dans notre époque et puis se dire, ah ben là, franchement, ça va pas, ou il aurait fallu faire autrement, etc. On n'est pas dans le même monde, donc on va respecter ce monde dans lequel on va entrer.
Alors, il y a des feuilles qui vont arriver, donc ah, Hervé voilà. A fait faire des feuilles, voilà.
Super, merci Hervé. Donc on va pas juger avec nos catégories, si vous voulez, ces textes. On n'est pas dans cette perspective-là. On va plutôt, alors, d'une part, partir de deux constats. C'est que, en particulier dans ce cycle de Jacob...
C'est la migration des peuples.
Voilà.
Oui,
je pense pas. Il y a un petit exil... C'est bien, ça vous met en route, comme ça après vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas prendre la parole.
Il y a assez pour tout le monde.
Oui, apparemment, Hervé pourvoit à tous les besoins. Donc vous devez vous retrouver au final avec deux feuilles, deux recto verso. Hein? Non? Un qui vous donne une sorte de tableau où j'ai juste essayé de remettre un certain nombre d'éléments pour vous remettre en tête des choses qu'on a vues mais que vous n'avez peut-être pas forcément en tête.
Je crois que ce n'est pas fait.
J'occupe juste le terrain. Et une autre feuille où vous avez juste des textes bibliques, des morceaux en fait, du cycle de Jacob. Voilà. Bon, apparemment, tout le monde a l'air d'être bien tout servi.
C'est comme la multiplication des feuilles, là. Bon, Hervé, il faut peut-être repartir, non?
Je crois que ça a l'air de... On a l'air d'y arriver, là.
Il manque encore. Marco va amener.
Voilà, entre Hervé et Marco, on devrait y arriver.
C'est toujours pas assez. Hein? Alors, il y a des tableaux. Donc, tout va arriver. Vous inquiétez pas. Donc, tout se passera très bien.
Voilà. Il y en aura pour tout le monde. Donc, deux constats pour commencer. D'une part, dans le cycle de Jacob, et on pourrait pratiquement l'élargir à l'histoire des patriarches, un texte sur deux a pour héroïne une femme, ou en tout cas comme personnage protagoniste. Or, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on parlait toujours uniquement de l'histoire des patriarches. Et du coup, les matriarches étaient un peu mises de côté. On pourrait donc plutôt parler de récits des ancêtres. Ça permet d'avoir une façon de parler un peu plus englobante ou un peu plus neutre. Ça dépend comment on regarde. Mais en tout cas, si on prend en compte ce fait qu'on a énormément de personnages féminins en fait et qui sont souvent protagonistes, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et est-ce qu'on peut revisiter les textes en prenant d'abord, en tenant compte de ce constat? Et puis la deuxième observation, c'est que quand on lit beaucoup d'exégèses de ces textes, de tous ces messieurs exégètes, parce que pendant le XXe siècle, il y a quand même eu beaucoup plus de messieurs exégètes que de dames, on assiste souvent au phénomène suivant, c'est que quand on lit les textes, ces textes patriarcaux, et disons en particulier ici celui de Jacob, et que c'est des textes où les hommes sont des protagonistes. On va traiter ces textes comme des textes politiques, comme des textes qui vont instaurer des relations entre des clans, entre des tribus, qui vont poser des problèmes de pouvoir, etc. Et puis quand on lit les textes où les femmes sont protagonistes, on va parler de luttes mesquines, privées, par exemple, le texte qu'on a lu aujourd'hui avec la lutte entre les femmes pour l'engendrement, on va dire que le désir d'enfant lié au sexe féminin, etc. Alors que Abraham aussi, il avait envie d'avoir des enfants, mais on l'a jamais lié à son sexe. Donc il y a des façons différentes de lire, et donc on pourrait essayer de revenir là-dessus. Et de faire le pari que quand on a des personnages féminins, on a autant d'enjeux politiques, au sens large, évidemment, sociaux, anthropologiques, quand les protagonistes sont masculins. Donc c'est cette piste, si vous voulez, que j'aimerais suivre aujourd'hui. Et alors, on peut aussi faire une autre remarque, c'est que dans ces textes de Jacob, on a des figures qui sont d'un côté des figures très attendues et des représentations très classiques, liées à la maternité, à la sexualité. Vous avez une trame où vous avez Rebecca qui va chercher une femme pour son fils, la rencontre au bord du puits, la rivalité de Rachel et Léa, les mariages, les enfants. Donc ça suit, si vous voulez, une ligne tout à fait classique. Mais en même temps, à l'intérieur de ça, on a des choses très inattendues, en fait, et des comportements aussi différents, et des bifurcations, des tensions. Et c'est un peu sur ces tensions que j'aimerais mettre l'accent, ces ambiguïtés aussi, qui construisent, je crois, aussi quelque chose dans le parcours du cycle de Jacob. Encore une toute petite observation. On passe souvent de la tragédie à quelque chose de beaucoup plus humoristique, en aller et retour. Et ça aussi, je pense que c'est un élément à prendre en compte. Il y a une certaine distance, souvent, qui est prise à l'intérieur même du texte par l'humour, enfin, pensez à cette Rachel assise sur ses téraphimes, là, sur sa selle de chameau, enfin, on peut aussi le lire comme quelque chose d'assez... avec un quelque chose de alors humoristique, bon, on se roule pas par terre de rire, mais il y a quand même quelque chose qui prend une certaine distance. Alors, je vais refaire rapidement avec vous un peu le parcours de toutes ces femmes qui sont présentes. Donc c'est le tableau et en particulier la deuxième colonne si on compte la colonne des titres. Donc la place des femmes, en regardant aussi un petit peu quels dialogues sont présents ou quels silences, parce que ça aussi c'est une façon de repérer un certain nombre de choses. Il y a des choses qui sont dites, puis il y a des choses qui ne sont pas dites, ou des réactions qui ne sont pas données, et ça peut être important d'en prendre acte. Alors ça commence, enfin l'histoire de Jacob commence avec Rebecca. Et on ne peut pas ignorer ce personnage. Ah ben voilà, les derniers tableaux qui arrivent, donc ceux qui n'en ont pas encore pourront les avoir. Donc Rebecca, qui, on l'a vu, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans le cours, mais là on va essayer de reprendre l'ensemble. Rebecca qui est destinataire d'une promesse au sanctuaire, ça c'était en Genèse 25, avec cette promesse déjà qui va introduire une première tension où le cadet sera l'aîné, en fait. Rebecca qui va être donc une femme très active, très protagoniste, en particulier dans le chapitre 27, où Jacob va voler la bénédiction d'Ésaü avec l'aide de Rebecca, très clairement. Et puis alors, à la fin du chapitre 27, on a cette strate un peu plus tardive qui va poser le problème, qui est un problème sur lequel on va revenir abondamment, celui du mariage et des mariages mixtes. Rebecca dit que les deux femmes hittites épousées par Ésaü l'insupportent, enfin qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Et donc... Elle prépare la sortie de Jacob vers l'autre partie de la famille, donc, qui est à Aram. Et Jacob va finalement être envoyé par Isaac et béni, comme s'il ne s'était rien passé dans le chapitre 27. Donc c'est là qu'on voit bien qu'il y a deux traditions différentes. Mais la consigne, c'est surtout ne pas prendre une femme cananéenne. Donc on a ce motif où Jacob doit aller prendre femme dans la maison de Bethuel, le père de Rebecca, en faisant donc l'itinéraire inverse que celui que Rebecca a fait pour venir épouser Isaac. Et donc on est ici dans le mariage endogamique, c'est-à-dire on se marie à l'intérieur du clan, de la famille. Il ne faut pas épouser une fille de Heth ou des Hittites ou des gens qui sont là par là, ni une fille du pays, contrairement à ce que Ésaü lui a fait. Et si vous reprenez la feuille avec les textes, au début du chapitre 28, donc ça commence, bon, il y a Jacob chez son oncle Laban, ce que je viens un peu de vous redire. Et au verset 6 du chapitre 28, vous pouvez lire « Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas pour femme une cananéenne. » Il vit que Jacob, écoutant son père et sa mère, était parti pour Padan Aram, bon, comme si, là encore, il ne s'était rien passé avant, et Ésaü vit ainsi que les cananéennes déplaisaient à Isaac, son père. Alors Ésaü se rendit auprès d'Ismaël. Il prit pour femme Mahalath, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et sœur de Nébaïoth, en plus de ses autres femmes. Donc Ésaü a d'abord épousé des femmes du pays, donc mariage exogame. Et puis, voyant que c'est le mariage endogame qui est privilégié par ses parents, va aller chercher du côté d'Ismaël. Donc on reste dans la famille, donc on est plutôt enfin, dans la famille reconstruite par la Genèse, hein, évidemment. Et donc, on a ce nouveau mariage. Alors, on aurait pu même reculer encore, hein, parce que Rebecca, il y a aussi une rencontre au puits pour Rebecca, mais bon, voilà, on va commencer par là. Donc, Rebecca, un personnage qui a vraiment qui donne l'impression d'être une grande dame, hein, qui va accoucher de deux jumeaux, hein, qui est plutôt du côté des tentes et l'autre qui est plutôt du côté du sauvage. Donc, ça, une figure importante et protagoniste. Ensuite, donc, on a la rencontre de Rachel avec ses deux temps où Rachel arrive et puis après il y a un dialogue entre ce qu'on a vu, je crois que c'était la semaine précédente, hein, le dialogue de Jacob avec qui arrive comme étranger et qui va trouver ses frères. Et puis la rencontre de Rachel et de Jacob qui n'est plus en discours direct, hein, mais qui est en discours indirect. Rachel, donc, qui, comme sa mère, abreuve les troupeaux. Hein, c'est plutôt Jacob qui va abreuver les troupeaux, comme Rebecca avait abreuvé les troupeaux du serviteur qui était venu la chercher. Et avec, donc, de nouveau ici, un double but de Jacob. Il faut, d'une part, trouver un asile, en fait, parce que Jacob est un personnage en fuite, hein, et donc il va trouver asile dans la maison du frère de sa mère et choisir une femme, donc dans cette même maison. Et le double but répond aussi au double récit, en fait, de Jacob, hein, où on assiste sur la haine d'Ésaü et sa fuite, et l'autre sur la nécessité de partir pour aller chercher une femme. Donc ça correspond à ce qu'on avait avant. Rachel et Léa, alors vous avez donc la brebis et la vache, hein, ce qui, quand on le dit, fait toujours un peu sourire, mais on est ici avec des grandes expressions de la fécondité et de la fertilité. Hein. En particulier pour Léa, la vache, c'est vraiment l'idée de la force féconde, et c'est un titre qu'on donnait à des princesses, hein, lié d'ailleurs à aux deux grandes figures qui viennent d'Égypte, mais qui vont se répandre largement en Mésopotamie, Bat et Hathor, qui sont deux figures aux oreilles de vache, hein, et qu'on retrouve depuis très longtemps, même déjà sur la palette de Narmer en Égypte, on va trouver cette figure de Bat, qui elle a les oreilles, les cornes plutôt qui vont à l'intérieur, alors que Hathor a les cornes qui vont vers l'extérieur. C'est un des signes qui les différencie, mais en même temps elles sont très très semblables dans cette idée de la fécondité. Ensuite, on a donc les mariages, avec le dialogue de Jacob et Laban concernant le mariage, mais le silence total des deux femmes, hein, que ce soit Rachel ou Léa, et l'ajout, comme on l'a vu aussi, de Zilpa et de Bila, comme sorte de deux cadeaux de mariage, hein, qui sont ajoutés à ce moment-là, et qui vont évidemment avoir un rôle important dans la suite. Avec donc la mention de Jacob, serviteur de Laban, que Thomas évoquait tout à l'heure, critiqué dans Osée 12, hein, où on va construire cette figure de Jacob comme une figure négative parce qu'il a accepté d'être serviteur d'un autre pendant des années pour une femme, hein, et pour une femme, effectivement. Les enfants, ensuite, alors tout le texte qu'on a lu tout à l'heure, hein, avec donc les fils de Léa, les deux fils que Bilha va donner en quelque sorte à Rachel, puis de nouveau deux fils de Léa par Zilpa, et encore deux fils de Léa, et la fille qui arrive un peu comme un supplément, hein, on a vu qu'il n'y a pas d'explication pour son nom, par exemple, hein, et on n'a pas du tout le même accueil, disons, pour Dina, et on ne la trouve pas tout le temps dans les listes généalogiques, d'ailleurs. Hein, souvent, il n'y a que les garçons. Les Mandragores, et enfin, le premier fils de Rachel. Alors, ce qu'on peut repérer ici, c'est que donc on a cette dualité entre, comme on avait d'ailleurs Rebecca qui aimait Jacob et Isaac qui aimait Ésaü, on retrouve ici une autre dualité où on nous dit que Léa est haïe mais féconde, hein, par Jacob, et Rachel aimée mais stérile. Donc, cette espèce de couple où l'une a ce que l'autre n'a pas. Hein, et ça, on va le retrouver plusieurs fois dans les récits patriarcaux. Mais en même temps, elles vont construire la maison d'Israël. Et ce sont elles qui vont en général donner les noms aux enfants. Il y a une fois, c'est pour Lévi, où on a un verbe à la troisième au masculin singulier. Donc on donna le nom, c'est pas elle qui va lui donner, mais en général ce sont les mères qui donnent des noms, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, dans les récits. Vous allez avoir en particulier dans les récits sacerdotaux plutôt le nom qui va être donné par le père. Donc cette idée de rivalité, complicité, sur laquelle on pourra revenir aussi, parce que à la fois donc elles ont été complètement silencieuses dans l'épisode précédent, alors que là elles sont complètement protagonistes. C'est elles-mêmes qui décident en fait de la sexualité du mari, puisque c'est elles qui décident avec qui il va coucher à quel moment. Et voilà, donc ici, on a quelque chose qui, encore une fois, va venir contrarier l'image passive. Vous voyez qu'on passe de la passivité au protagonisme et qu'on est sans arrêt en train de passer de l'un à l'autre. Alors pourquoi on a aussi cette ambiguïté, cette tension entre passivité et ambiguïté? On pourra y revenir. Après, donc, on a la fuite de Jacob de chez Laban avec cette fameuse adresse à ces femmes qu'on a lues tout à l'heure, hein, où les femmes sont effectivement prises en sorte de témoins, hein, comme dans un tribunal, et où elles finissent par dire fais ce que tu as à faire finalement. Hein, là encore, pour la première fois, pratiquement, un moment où il y a un dialogue entre Jacob et ses femmes. Hein, parce qu'elles ont... jusqu'à présent, il n'y a pas grand monde qui se soit parlé, ou des femmes, les femmes entre elles, ou les femmes avec Jacob. Ensuite, donc, le moment où Laban rattrape Jacob avec ses reproches, « Qu'as-tu fait? Tu m'as trompé, tu as emmené mes filles comme captives de guerre. » Ce « qu'as-tu fait ?» peut aussi renvoyer à un autre épisode qu'on retrouve en filigrane assez souvent dans tous ces textes, qui est ce qu'on appelle l'épisode de la femme-sœur. Si vous vous souvenez, ça commence avec Abraham, qui va faire passer sa femme pour sa sœur en arrivant chez les Égyptiens pour épargner sa vie. Hein, il arrive à la frontière et il dit à Sarah, voilà, je sais que tu es belle. Et là, dans les 80 ans passés, à ce moment-là, dis que tu es ma sœur, hein, pour que le Pharaon me fasse du bien à moi. Hein. Donc, cet épisode va se reproduire une deuxième fois avec Abimélec, et ensuite, une troisième fois, toujours avec Abimélec, mais pour ce qui concerne Isaac. Et donc, dans ces trois épisodes, qui sont traités un peu différemment, chez Abimélec, on a cette même remarque, « Que m'as-tu fait ?» hein, quand il découvre, en fait, que la femme qu'il a prise chez lui n'est pas la sœur, mais la femme d'Abraham, puis d'Isaac. Alors, ensuite, On a la fameuse tricherie de Rachel avec le vol des téraphimes. Alors, j'ai remis ici différentes suppositions. Hein. Est-ce que c'est pour s'approprier la fonction, les objets parce qu'ils ont une fonction divinatoire et qui peuvent donc être une bénédiction ou un moyen de guérison? Est-ce que c'est pour souiller des objets divins paternels? Est-ce que c'est pour emporter la légitimité du clan avec elle, qui pourrait donner une certaine identité du clan? Alors, juste pour les emporter ou pour aussi affirmer la suprématie de son clan, voire contre Léa, c'est aussi des hypothèses qui sont faites. Et puis, voilà, je vous ai remis toutes les citations des téraphimes. Et on mentionne aussi l'épisode que citait Thomas tout à l'heure de Mical, qui va utiliser ça dans un autre type de tromperie pour le faire passer pour David. L'alliance avec la délimitation, alors cette alliance entre Jacob et Laban, elle est double. D'une part, elle va établir la protection des femmes. C'est Laban qui dit « Si tu affliges mes fils, si tu prends d'autres femmes en plus de mes fils, ce n'est pas à un homme que nous aurons affaire. Prends garde, c'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. » Et puis, en même temps, la séparation des territoires, puisque ça va permettre de distinguer et de ne plus revenir, d'ailleurs, à partir de là, dans la partie araméenne de la famille. Donc on a une vraie séparation là qui va s'opérer, puisque plus aucun fils à partir de ce moment-là n'ira chercher une femme dans cette partie de la maison maternelle. Alors ensuite j'ai ajouté encore quelques épisodes qui terminent le cycle de Jacob. C'est l'épisode de Dinah au chapitre 34. Alors là encore, on y reviendra dans une autre séance, mais on peut lire ce texte de plusieurs façons. Hein. Alors ça commence par Dinah qui sort pour voir ses copines au puits, hein, et qui va être vue par le chef des habitants du pays, qui va être enlevé, violé peut-être, l'affaire n'est pas très claire, hein. Puis demander en mariage, parce qu'on a ici l'épisode inverse d'un autre épisode de viol avéré, c'est celui de Tamar par son demi-frère, hein, au moment de la succession de David, où il va tomber amoureux d'elle, faire tout ce qu'il faut pour qu'elle se retrouve seule avec lui, la violer et ensuite la haïr et la jeter dehors. Donc ça, c'est l'épisode lié à la succession de David. Par contre, ici, c'est le contraire. Donc il y a quelque chose qui se passe. Alors, est-ce que c'est un viol? Est-ce que c'est un enlèvement? Quelle est la part de violence d'arrangement entre les deux familles? On ne sait pas très bien. Mais en tout cas, il y a une demande en mariage ensuite. Silence des femmes, à la fois de Dinah, donc la première concernée, mais aussi de sa mère Léa, qui n'apparaît pas du tout dans l'histoire, et silence aussi de Jacob, quand il est informé de l'affaire, contrairement à ses fils, qui, en particulier deux, Siméon et Lévi, vont être très fâchés et prendre prétexte de cette affaire-là pour tuer tous les mâles de la ville. Ils vont imposer, ils vont demander que pour que le mariage se fasse, tous les hommes se fassent circoncire et profiter du moment où ils sont en train de se remettre de leur circoncision pour attaquer la ville et évidemment ne pas rencontrer beaucoup de résistance et donc tuer tout le monde. Donc, en tout cas, s'il y a une histoire peut-être ancienne de résolution à l'amiable d'une histoire qui commence entre ces deux jeunes gens, ou s'il y a un viol, de toute façon, on va insister dans la version finale sur ce viol comme souillure qui va demander une purification. Et puis, alors, il y a un tout petit épisode, mais tout à fait Alors non, il y a d'abord la deuxième naissance des fils de Rachel, donc qui va donner naissance à Benjamin, mais mourir en accouchant. Donc elle qui voulait tellement des enfants et qui a dit à Jacob, donne-moi des enfants sinon je meurs, elle va mourir en ayant des enfants en fait. Et avec la double nomination, puisque là Rachel va d'abord l'appeler Ben-Oni, et Jacob va le rebaptiser Benjamin. Donc on a double nomination de la mère puis du père. Et le dernier épisode, c'est un petit épisode, mais qui n'est pas, qui va avoir son importance. En l'absence de Jacob, qui dans cet élément-là est appelé Israël, Ruben va coucher avec Bila, qui n'est plus appelée la servante, mais cette fois-ci la pilgèche, c'est-à-dire la concubine de Jacob. Et là encore, Jacob l'apprend et ne dit rien, Bila non plus d'ailleurs. Hein. Mais cet épisode va être mentionné ensuite en Genèse 49, au moment où on a toute la série des bénédictions et des malédictions des enfants de Jacob. Et donc, à cause de cela, Ruben, qui est donc le fils premier-né, hein, puisque c'est le premier-né de Léa, ne va pas pouvoir prétendre à son droit, à sa suprématie de premier-né. De même que Siméon et Lévi, qui sont ceux qui agissent au moment de l'affaire de Dina, pour cette raison, vont aussi être écartés. Et du coup, comme par hasard, qui reste en lice pour devenir le fils privilégié ? C'est le numéro 4. Et le numéro 4, c'est Judas. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à construire aussi la suprématie de Judas dans la liste, en ayant éliminé les trois premiers qui gênaient un peu le passage. Voilà. À cause de ces deux épisodes, celui de Dina et celui de Ruben qui couche avec Bila. Donc vous voyez que chaque fois, on a là des femmes qui vont soit introduire une déviation dans le parcours tracé, soit carrément redistribuer les cartes pour arriver à la suite. Alors ça, c'est un premier parcours comme ça, un peu à grands pas. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions déjà concernant cet ensemble ?
Alors, je crois qu'il y a un micro, si quelqu'un veut poser une question ou faire un commentaire.
Il faut bien parler
près. Je reprends le nom des femmes.
Oui.
Donc, en ce qui concerne Rachel et Léa, vous avez donné la signification. En ce qui concerne Dina, vous avez dit « on ne sait pas ». Et qu'en est-il de Rebecca et de Bila ? La signification des prénoms.
Alors, Dina, on ne nous le dit pas, mais c'est toujours le verbe « din » qui est toujours
le féminin
jugement.
De Dan, quoi. Voilà.
Oui, c'est la même chose que pour on a vu la tribu de Dan. Hein. C'est construit sur la racine de « juger ». Rebecca, Rivka, c'est un animal aussi. C'est quoi Rebecca ? Je ne sais plus. C'est aussi c'est pas la brebis, elle, c'est la chèvre, peut-être, oui, je sais plus.
Ouais, on dit.
Ouais. Il y a, alors, ce qui est, enfin, ça, c'est une remarque plus large, mais il y a beaucoup de noms féminins qui sont des noms d'animaux. Alors, je sais pas très bien ce qu'on peut en faire, parce que alors ça, il y a une panoplie assez étonnante. Hein. Vous avez Déborah, c'est l'abeille. Vous avez Hulda, la prophétesse, c'est la taupe. Vous avez quoi encore ? La femme de Moïse, Zipporah, c'est un petit oiseau. Je ne sais plus qui j'oublie encore. Yaël, qui est aussi une sorte de bouquetin ou d'animal comme ça, un peu qui se trouve dans les montagnes. Voilà, y en a un certain nombre. Voilà. Alors, donc, qui c'est qu'on avait d'autres encore ? Ah oui, Bila et Zilpa. Alors, elle, il y a des... c'est moins évident. On l'avait vu dans une des dernières séances. Je crois pas que je l'ai sous la main. Il y a une idée de faire violence quelque part, il me semble, mais je ne sais plus très bien.
Mais il n'y a pas de jeu avec.
Non,
avec la
apparemment, il n'y a rien qui enfin, oui, avec le texte, quoi. Il n'y a pas de. Alors, il y a des micros. Il faut changer les batteries, voilà.
J'aurais peut-être une petite question sur la mort de.
Moi, on peut, hein. Toute façon, le problème, c'est que ces théraphimes, ils sont quand même très isolés dans l'affaire, parce qu'on n'en parlera plus jamais de ces théraphimes de Rachel. Il y a le chapitre 35 où on nous dit qu'on va enterrer un certain nombre d'idoles, etc., mais on ne mentionne pas spécifiquement ces théraphimes-là, donc on ne sait pas s'ils sont enterrés avec les autres ou pas. C'est possible, mais on n'en sait rien. Et puis après, voilà, ils n'ont plus aucune incidence dans le texte. Par contre, je pense que le fait que, quand elle réclame à Jacob des enfants et qu'elle lui dit « donne-moi des fils, sinon je meurs », là, je pense qu'il y a beaucoup plus une espèce de... Ben voilà, ça fait deux bornes du récit, hein, celui où elle demande à être enceinte en disant « sinon je vais mourir », et puis le fait qu'elle meure en accouchant. Je pense qu'il y a plus de liens avec ça qu'avec les théraphimes. Et donc aussi avec la fécondité, etc.
Il y
avait quelqu'un là-haut, oui.
Oui, vous avez mentionné la prescription des mariages exogamiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à ces épisodes, ou est-ce que c'est une tradition ancienne et qu'on retrouve dans d'autres cultures de la région? Parce qu'après tout, ça ne va pas du tout de soi. Il y a beaucoup de cultures où, inversement, les jeunes gens sont sommés de quitter la tribu pour aller chercher femme ailleurs, notamment en liaison avec le tabou de l'inceste.
Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, je mets votre question en stand-by, parce que c'est un morceau que j'aimerais reprendre, là. Mais on va peut-être écouter s'il y avait une autre question avant, et puis je reviendrai à votre question.
Merci. J'ai deux mini-questions. Vous avez évoqué dans le cours précédent donc les 12 fils et donc les 12 tribus. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de 12 fils alors qu'il y a 4 filles?
Non, il y a une fille.
Enfin, une fille.
Une fille, Dina, c'est la seule.
C'est la seule, pardon.
Ouais.
Donc pourquoi est-ce qu'on parle des 12 fils alors qu'il y a une fille? Et la deuxième petite question, c'est que Jacob revient chez son père, Isaac. Et il doit revenir, d'après les calculs, je ne sais pas, 15 ans ou 20 ans après.
Oui.
Minimum. Or, au moment de la bénédiction, Isaac est quasiment mourant. Il est très vieux et quasiment mourant.
Bon. Non, alors pour les 12 fils et Dina, je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, le problème de Dina... Je crois qu'on l'a un peu créé pour le besoin de Genèse 34, en fait.
Parce qu'elle disparaît après. Bon, elle va être... Enfin, on va tuer son amoureux, là, ou son violeur. Enfin, on peut le lire de différentes façons. Et puis elle disparaît totalement. On n'en entend plus jamais parler.
Il y a des traditions rabbiniques qui font aller un peu n'importe où et puis devenir la femme d'au moins 2-3 différents personnages. Mm. Mais dans la Bible, en fait, voilà, il y a une lacune là. Donc ça, c'est sûr. Donc en fait, je pense à l'origine, ce texte Genèse 29-30, il s'intéresse aux 12 tribus. Et puis avec Genèse 34, on avait cette histoire. Donc on a inséré Dina, mais on était très peu inspiré parce que, comme je vous ai dit, on n'a même pas pensé à lui donner une étymologie, alors qu'on aura pu le faire très 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 facilement. Alors l'âge d'Isaac, évidemment, ça dépend un peu. Quelle version vous prenez? Je pense en effet que Genèse 27 présuppose un Isaac qui est sur le seuil de sa mort, mais dans la version sacerdotale, en fait, c'est elle qui donne tous les âges des patriarches et très peu des matriarches, parfois, mais pas beaucoup. Ouais. Donc là, cet épisode, en fait, n'y figure pas. Donc du coup, le problème se pose quand on combine la version sacerdotale avec la version non sacerdotale. Vous avez le même problème en Genèse 12, parce que si vous prenez l'histoire dont Corinne a fait allusion, Sarah chez le pharaon, elle est très belle, très appétissante. Elle a au moins 80 ans, au moins. Donc, on peut toujours être attractif, mais je pense que ce n'était pas l'idée à l'origine dans cette histoire. Donc, je pense que certaines difficultés que nous avons maintenant viennent aussi du fait que nous avons en fait une combinaison des différentes versions de cette histoire.
Et d'ailleurs, si vous regardez à la fin du chapitre 35, donc après la mort de Rachel, donc on nous dit Jacob arriva sans transition, hein, on nous fait toute la liste de nouveau des fils, et puis Jacob arriva auprès de son père Isaac à Mamré, voilà, qui est à Hébron, où Abraham et Isaac avaient immigré, donc on est bien au retour à la case départ. Et tout de suite, vous avez le verset suivant, la durée de la vie d'Isaac fut de 180 ans, donc quand même, vous voyez, ça lui laisse le temps de voir venir. Il expira, il mourut, hein, et fut réuni à ses ancêtres. Donc, immédiatement, on va le faire mourir. Et à quoi ça va servir de le faire mourir? Ça va servir au fait que Ésaü et Jacob, ensemble, vont l'enterrer. Hein, et que donc, on va sceller cette réconciliation aussi avec cet ensevelissement.
Je voulais répondre à la question des mariages.
Oui, alors les mariages. Alors, c'est un des. Si vous voulez, il y aurait, à mon avis, au moins trois points sur lesquels on peut voir comment cette importance des femmes au niveau politique, hein, comme je le disais au début, est présente. C'est la question des mariages, la question de la fertilité. Et la question des généalogies. Et vous voyez que, en fait, tout ça est un espèce de enfin, ça peut se tricoter ensemble. Alors, sur les mariages endogamiques, exogamiques, effectivement, on a les deux possibilités. Hein. Dans les civilisations méditerranéennes, on est plus sur des questions donc à la fois patrilinéaires et endogamiques, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir une généalogie par le père et un mariage dans le clan. Et donc, ici, on a cette... alors déjà, avec au début, hein, ce que je vous relisais, il s'agit de ne pas prendre une femme cananéenne. Et pour ne pas prendre une femme cananéenne, on va aller chercher du côté de Haran, ou un peu moins loin, enfin, selon où on situe cette localisation de cette partie de la famille. Et là, alors il faut qu'on croise ça avec les questions historiques. Qu'est-ce qui va se passer au moment du retour d'exil? Donc, une fois que toute cette histoire est en train d'être écrite, au retour d'exil, on a cette question de savoir est-ce que les exilés, ceux qui sont partis, à Babylone, hein, et qui pourrait être représenté par cette partie de la famille qu'on doit aller rechercher loin de l'autre côté du fleuve. Hein. Donc, est-ce que ces exilés, quand ils rentrent dans la terre de Canaan, qui n'est plus un pays, qui est une province sous domination, avec qui ils doivent se marier? Alors, est-ce qu'ils doivent se marier avec des gens comme eux, c'est-à-dire des exilés, hein, ou bien est-ce qu'ils vont se marier avec ce qu'ils vont appeler de façon assez péjorative les gens du pays, qui sont en fait ceux qui ne sont pas partis en exil, hein, qui ne sont pas des étrangers, mais qui sont ceux qui ne sont pas partis en exil. Et il semble qu'en tout cas, à un certain moment du retour de cette fameuse Gola, de ces étrangers, de ces exilés, on a cette question de savoir est-ce qu'il faut qu'on continue à faire un groupe fermé entre nous, hein, parce que en fait il y a l'idée que ceux qui sont de la Gola sont les vrais juifs, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir parler de juifs, hein, après l'exil, ou bien est-ce que tous ceux qui sont là dans le pays sont, enfin, font partie du peuple juif. Et on a des groupes différents, avec des théologies différentes là-dessus. Vous avez un groupe qui représenterait le groupe le plus fermé, qui est ceux qui sont derrière Esdras et Néhémie, par exemple, qui, eux, vont dire pas question de se marier avec des femmes étrangères. Mais quand on dit femmes étrangères, en fait, ça veut dire des femmes du pays. Il faut garder nos relations avec les femmes qui sont les femmes de notre groupe d'exilés. Elles seules ne sont pas étrangères, si vous voulez. Donc, la question pour Jacob d'aller chercher une femme là-bas, on peut la relire aussi dans cette optique-là, mais c'est, alors, il faut le lire sur le long terme, parce que on a dit, ces femmes comme Rebecca, comme Rachel, elles sont présentées dans certains textes comme très protagonistes. Les textes qui les présentent comme très protagonistes sont les textes qui viennent du Nord. Il y a du côté des traditions du Nord une grande importance de ces femmes. Et puis, ensuite, quand ça va être relu par les traditions du Sud, on va très nettement amoindrir, si vous voulez, le protagonisme de ces femmes, probablement à cause des questions de la fertilité aussi, que je croiserai après. Et puis, dans un troisième temps, quand on est dans ce débat après, enfin, post-exilique, pour savoir est-ce qu'on se marie entre nous, ou est-ce que, enfin, quelle taille on va donner à notre communauté et qui on va faire entrer dedans ou pas, on va reprendre ces figures-là, mais comme des figures endogames. Voyez ? Donc, plus sous la forme de. Enfin, plus pour les rendre très protagonistes, comme elles étaient, mais pour avoir cette idée que ces femmes-là sont celles de notre famille et sont celles avec qui il faut se marier. Donc, ça traverse toute l'histoire et ça va être utilisé de différentes façons. Mais c'est sans doute ça qui peut expliquer aussi le fait qu'on ait des textes où les femmes sont passives et d'autres textes où les femmes sont actives.
Très bien. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, il y a quelqu'un au fond.
Merci. C'est à propos de le fait qu'il y a au moins 4 des enfants de Jacob qui sont des enfants d'esclaves. Est-ce que ça joue un rôle, alors peut-être pas au retour d'exil, où il n'y a plus vraiment de tribus, mais si effectivement le mythe a été élaboré au temps de Jéroboam, sur une hiérarchie entre les tribus au sein du royaume d'Israël, le fait que 4 d'entre elles descendent d'une esclave et que les 4 autres tribus, avant l'ajout des 4 du sud, les 4 autres tribus du nord sont les enfants des femmes légitimes de Jacob.
Alors là aussi, si vous voulez, je répondrai en tension entre deux visions. Parce que d'une part, toute cette course à l'enfantement là, de ce chapitre, ça permet de poser 12 ancêtres comme égaux, dans le sens où ils sont de la même génération. Parce que alors ça reprend la question de la généalogie. Les généalogies, bon, vous avez vu qu'elles sont souvent bricolées, hein, ce n'est pas des vraies généalogies, mais les généalogies, elles permettent de donner une représentation historique. Et la façon dont on va être classé dans la généalogie, ça donne une idée de l'importance sociale du groupe qui est derrière l'ancêtre. Et donc là, d'une part, on voit que ces tribus, elles sont définies plus pratiquement par les femmes que par les hommes, parce que vous avez d'autres chapitres entiers où on parle d'engendrement, où vous n'avez pas une femme, hein, où on vous dit, Abraham engendra Isaac, qui engendra Jacob, etc. Or là, on voit qu'il y a un rôle très important des femmes et que c'est comme par hasard, mais à mon avis, ce n'est pas un hasard, ça donne une idée d'une égalité, en quelque sorte, de ces 12 tribus, puisqu'elles sont engendrées au même moment, dans le même lieu, alors par des femmes différentes, mais dans la même génération. Et par contre, Quand on regarde d'un peu près ce qu'on a fait tout à l'heure, là, juste à la fin, on voit que ces tribus, en fait, elles ne sont pas égales, hein, et qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres. On voit qu'on va éliminer gentiment les trois premières pour donner la place, la première, à la quatrième, hein, qu'il y a des tribus un peu fantômes, enfin voilà. Donc là aussi, on n'a pas une vision uniforme. Hein. Et alors, dans ce cas-là, si on va plutôt sur les différenciations, c'est clair qu'être né d'une femme, alors déjà de Rachel ou de Léa, ce n'est pas la même chose. Et alors c'est clair que pour les traditions du Nord, c'est Rachel qui compte le plus, et que c'est donc Benjamin et Joseph qui sont les tribus qui vont être mises en valeur. Mais relu par le Sud, c'est Judas qui va devenir prééminent. Donc, et puis effectivement, donc, est-ce que c'est Léa, est-ce que c'est Rachel, est-ce que c'est les servantes? Là, on va pouvoir faire une hiérarchie. Donc vous avez un peu les deux. Hein.
Mais je pense une question intéressante, parce que c'est vrai, si vous regardez après qu'ils sont les tribus des servantes, c'est des tribus soit araméens quelque part,
un peu marginal,
ou un peu inventées. Donc il y a peut-être quand même quelque chose, je crois que vous avez une piste intéressante. Mm. Après, sur le plan légal, si on peut utiliser cette idée, on le voit avec l'histoire aussi de Sarah et Hagar. L'idée, c'est quand même que, apparemment aussi, bien que dans l'histoire de Jacob, on n'y insiste pas, il y a un changement de statut aussi de ces mères porteuses qu'on voit avec le cas de Hagar. Et donc, les enfants, d'une certaine manière, sont quand même considérés comme étant d'égalité. Mais en même temps, et là, je pense que vous avez tout à fait raison, au moment où le texte s'intéresse à les répartir entre différents mères, je pense qu'on veut quand même dire quelque chose avec ça.
Oui, tout à fait. Je reviens juste un petit coup en arrière sur les questions d'endogamie. Là, il y a un texte que je m'étais noté que je ne vous ai pas cité. Dans le livre de Tobit, alors Tobit, je ne sais pas si vous avez beaucoup fréquenté ce livre, ça fait partie des livres qu'on appelle deutérocanoniques, hein, qui ne sont pas dans le canon juif, dans le canon hébreu, mais qui sont, ils sont dans le canon juif, mais pas dans le canon hébreu, mais qui sont donc écrits en grec, et donc tardifs. Il y a un discours de Tobit à son fils Tobias, en Tobit 4, 12 à 13, qui dit « Garde-toi de toute débauche, mon enfant. » Il y a déjà tout un tas de conseils sur tout un tas de conseils moraux à respecter. « Et avant tout, veille à prendre une femme de ton propre peuple. N'épouse pas une étrangère, une femme qui ne soit pas de la tribu de ton père. » Alors qu'on parle à un moment où on est à l'époque hellénistique, hein, où donc les histoires de tribus, ça fait longtemps qu'on en a un petit peu, on est un peu passé par-dessus. Car nous sommes les descendants des prophètes. Souviens-toi que nos ancêtres les plus lointains, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, ont tous épousé des femmes de leur parenté. Dieu les a bénis en leur accordant des enfants et il a promis à leurs descendants qu'ils posséderaient une terre. Alors, mon enfant, aime tes frères, ne sois pas orgueilleux à l'égard des tiens, hommes et femmes de ton peuple, au point de ne pas vouloir prendre une épouse parmi eux. En effet, l'orgueil conduit à beaucoup de déceptions et à la ruine. De même, la paresse est source de pauvreté et de misère extrême. Elle est la mère de la famine. Vous voyez que là, on a des bons conseils, hein, mais qui sont liés aussi à toujours cette préoccupation de pas aller chercher ailleurs, hein, une femme.
Merci. On peut encore prendre une ou deux questions, si vous en avez.
Alors, je ferai peut-être sinon juste un petit point sur cette question de fertilité et de fécondité, qui est aussi un autre... Alors, vous avez d'une part le topos de la stérilité des matriarches. Hein, ça, vous le trouvez pour Sarah, vous le trouvez pour Rebecca, dans un certain sens. Mais Rebecca, c'est Isaac qui va arranger l'affaire dans un premier temps. Et puis ensuite, Rebecca va aller au sanctuaire. Vous l'avez pour Rachel. Enfin, et on peut continuer comme ça sur un certain nombre. D'autre part... Donc on va avoir ces femmes du Nord, hein, qui sont, parce que quand Jacob va chercher sa femme chez Laban, donc il va dans la famille de sa mère, Hein. Laban est lié à lui par sa mère, pas par son père. Donc c'est dans la famille de sa mère qu'il va chercher sa femme. Et donc, à un certain moment, ces femmes sont, le protagonisme de ces femmes est rabaissé, réduit. Et on pourrait faire l'hypothèse ici que pourquoi on réduit le pouvoir de ces femmes ? Parce que justement, elles sont à l'image de Asherah, de Hathor, de Bat, de ces déesses féminines de la fécondité, qui sont des déesses extrêmement fortes et protagonistes. Et que donc, dans l'idée des traditions du Sud, qui sont assez influencées aussi par la théologie deutéronomiste, où on ne veut pas de toutes ces divinités, et on veut surtout se séparer de toutes ces pratiques-là, on va réduire le protagonisme des femmes parce que c'est trop proche, en fait, de ces figures divines de la fertilité. Et vous aviez, par exemple, on trouve partout des amulettes avec Asherah, donc que vous avez d'ailleurs sur votre texte. Enfin là, c'est pas une amulette, c'est une petite statue, mais ça fait partie de ces statues qu'on trouve beaucoup. Celle-là, on l'a trouvée dans une tombe. Mais donc, si on veut, en quelque sorte, éliminer ces pratiques de religion populaire, en fait, liée à ces déesses féminines, ben on va essayer de réduire aussi l'importance du protagonisme des femmes dans les textes, parce que c'est en lien, c'est très très proche, d'une part. Et puis d'autre part, on va réinsérer ces femmes dans des généalogies plus larges, parce que cette idée de Léa et Rachel comme bâtisseuses de la maison d'Israël, on va la retrouver, par exemple, dans un texte alors qui n'est pas du tout à tendance endogamique, bien au contraire, c'est dans l'histoire du livre de Ruth. Si vous connaissez le livre de Ruth, donc Ruth est une Moabite, donc elle n'est même pas du pays de Canaan, hein, elle est de l'autre côté. Et cette Ruth Moabite, après toutes sortes d'aventures, va donner naissance à Oved, qui est l'ancêtre de David. Donc cette Moabite va venir, là encore, alors sur les généalogies, on aurait aussi pu dire pas mal de choses, mais donc elle va venir complètement interférer dans une généalogie qui arrive donc à David, comme Moabite. Hein. Quand on l'accueille comme femme de Boaz, donc à la fin du livre, on va lui dire... on va lui souhaiter d'être comme Rachel et Léa, hein, qui ont construit la maison d'Israël. Donc, on va du coup là faire une sorte de fil rouge dans les généalogies, où on va retrouver un certain nombre de ces femmes par la fertilité, par la fécondité, qui vont perpétrer la vie. Hein, et souvent, ces femmes-là vont se mettre en jeu, vont mettre en jeu leur vie pour pouvoir assurer la perpétuation, en fait, de la généalogie. Et bon, il faut aussi se souvenir que dans ces textes, il n'existe absolument pas de croyance en la résurrection ou en un monde futur, hein, et que la seule façon de se projeter dans le futur, c'est la généalogie. Hein. Et outre le fait que, ben voilà, si un clan, s'il n'y a plus d'enfants dans un clan, il n'y a plus de clan. Donc, on est à la fois dans des questions de survie, mais aussi de projection dans le futur. Et c'est, il y a beaucoup de ces femmes-là, hein, qu'on va retrouver comme bâtisseuses, justement, de cette suite d'engendrement, au risque, enfin, en prenant des risques extrêmement forts. Et ça va arriver très loin, puisque on va arriver jusque dans la généalogie de Jésus chez Matthieu, hein, où vous allez trouver quatre femmes avant Marie, dont Ruth, Et une autre femme qui est liée d'ailleurs aussi à ces récits patriarcaux, qui est Tamar. Mais alors l'autre Tamar, pas celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se fait violer par un de ses frères, mais Tamar de Genèse 38, qui est donc une femme cananéenne, qui va avoir un premier mari, donc qui épouse un fils de Judas, donc le fameux Judas qui arrive en premier là, au bout de tant d'aventures. Et cette Tamar-là, elle va donc épouser Er, premier fils de Judas. Ce Er va mourir sans laisser d'enfant. Elle va épouser son frère, selon la loi du Lévirat, Onan, qui va mourir aussi. Et à ce moment-là, Judas lui dit, ben écoute, enfin il lui dit pas, mais il pense, tu m'en as déjà tué deux, je vais pas te donner le troisième. Hein. Et donc il la renvoie chez elle. Et elle apprend après que Judas va descendre à la fête de la tonte des moutons. Elle se met dans un carrefour. Judas pense que c'est une prostituée. Il couche avec elle et elle va enfanter de deux jumeaux, comme par hasard, hein, comme d'habitude, et dont un va être dans cette lignée davidique. Donc, voilà, c'est juste après. Hein. Et c'est toujours dans l'histoire de ces tribus et de ces fils. Donc, on a là tout un fil qui relie un certain nombre de femmes liées à leur place dans la généalogie, à leur importance liée aussi à la fécondité et à cette question des mariages. Et tout ça se croise et se tisse fortement, mais vous voyez que ça dessine une vision historique et politique aussi, autant que les patriarches. Donc ça vaut la peine de s'y plonger, même si parfois on se perd un peu dans les ramifications et dans les différents personnages.
Voilà, on arrive au bout, sauf s'il y a une question urgentissime. si ce n'est pas le cas, donc un grand merci à Corinne.